Provincia Orientale. Je suis totalement satisfait.
Moi, c'est une bonne convention.
Bonjour à tous et merci de votre fidélité à Radio Okapi, la fréquence de la paix qui vous accorde la parole. Le 24 octobre de chaque année, le monde célèbre la journée des Nations Unies. Cette année, le secrétaire général des Nations Unies plaide pour l'engagement de tous pour rendre les marginalisés et les vulnérables maîtres de leur avenir. En RDC, les agences des Nations Unies appuient l'État congolais depuis des décennies pour cet objectif. Alors, nous en parlons au cours de cette émission avec comme question principale, quel regard portez-vous sur leurs actions humanitaires ou ces actions humanitaires que nous proposent les agences des Nations Unies en RDC? Rejoignez-nous à l'adresse pa@radiocapi.net et appelez-nous au 0 81 890 63 15 pour votre intervention en direct. Toute l'équipe est là pour vous tenir compagnie. Sylvain Matundou est à la technique. Pesa Julie Bongonda est à la réalisation de ce programme coordonné et présenté par J.J. Arnoungembo sous la supervision de Ben Kabamba. Excellente condition d'écoute à toutes et à tous.
Parole aux auditeurs pour participer 081 890 63 15 ou par internet pa@radiocapi.net. Parole aux auditeurs, J.R. Nguembo.
Merci à vous tous qui nous avez envoyé vos messages. Clovis Kalolo, vous êtes à Moineditou, au Kassai Oriental. Vous dites que ces actions humanitaires sont louables pour nos frères marginalisés et vulnérables. Mais jusqu'à présent, la stabilité de la paix à l'est du pays reste encore hypothétique, comme cela a été leur priorité. Quant à moi, je pense que le gouvernement congolais doit aussi s'engager aux côtés des Nations Unies pour accomplir ses objectifs avec l'appui du peuple congolais. Sinon, les Nations Unies seules n'atteindront pas cet objectif d'une importance capitale. Alors, tout le monde est concerné. Les relations sociales sont des relations d'intérêt, dit-on. Est-ce ces actions sont-elles sans but lucratif ou sans contrepartie? Voilà, c'est une question qui pourrait être débattue également dans cette émission, Clovis et Kalolo, avec les auditeurs. Nous avons Silva Zindula qui dit l'ONU est tout autre chose que ce que la presse veut nous faire croire avec les actions de saupoudrage que nous voyons via quelques minimes interventions de ces agences. Bertin Dimbou, jusqu'ici l'ONU essaye d'atteindre cet objectif dans ses organisations telles que l'éducation, la culture, la santé et autres, mais seule la paix qui est l'un de ses objectifs dans le monde qu'elle tente d'imposer demeure, mais sans succès, malgré le dialogue organisé, l'ultimatum donné et la même présence des casques bleus. Voilà. Junior Balemba de Kisangani, pourquoi la MONUSCO est-elle accusée par la société civile de Béni? C'est parce qu'elle ne s'occupe pas réellement de la sécurité des civils. Thierry Kaputa, de Moba, merci au secrétaire général des Nations Unies pour ses plaidoyers. Certes, la question est de savoir si cette action humanitaire va réellement atteindre leur objectif. Merci beaucoup à vous tous qui avez envoyé les messages. Vous êtes nombreux. Nous allons encore lire d'autres messages au cours de cette émission. Nous avons quelques auditeurs qui nous ont déjà rejoints dans cette émission. Nous parlons de la journée des Nations Unies et nous faisons un point avec le mot du secrétaire général en marge de cette journée. Et aussi un coup de projecteur par rapport aux activités ou encore, disons, faire un petit bilan sur les activités des agences des Nations Unies pour, en fait, répondre à cet objectif. Justin, vous êtes à Kalemi et Maurice à Kinshasa. Justin, bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste.
Vous avez la parole, Justin.
Oui, c'est Justin depuis la ville de Kalemi. Bon, je voudrais aussi intervenir à ce sujet avec concerne la journée mondial des Nations Unies. Vous savez, avec le problème des enfants vulnérables et les femmes victimes, vous savez, seules les Nations Unies ne peuvent rien faire. Il fallait que le gouvernement congolais puisse aussi intervenir et ou soit puisse venir en aide pour sauver la population congolaise et surtout celle de l'Est de la RDC qui est frappée par la guerre.
Voilà, Justin, vous êtes avec nous, Justin.
Oui, Je disais que les Nations Unies, ça ne pèse rien. Il fallait que le gouvernement congolais puisse aussi contribuer avec quelque chose.
Oui, mais Justin, mais ils sont partenaires. Et je crois que les Nations Unies constituent un partenariat sûr de la RDC. Et depuis un certain temps, depuis la nuit des temps, les Nations Unies travaillent aux côtés du gouvernement congolais.
Vous savez, si vous voulez que vous puissiez être aidé, il fallait que vous puissiez d'abord vous aider de vous-même. C'est-à-dire, pour que les Nations Unies, bien sûr nous sommes membres des Nations Unies, mais nous ne devons pas être toujours derrière les Nations Unies, ou soit il fallait que le gouvernement congolais puisse intervenir en premier lieu. Maintenant, on verra aussi les Nations Unies venir peut-être à la deuxième position.
Donc pour vous, Justin, vous ne sentez pas, en tout cas, dans ce partenariat, l'intervention significative du gouvernement congolais, et le gros du travail est fait par les autres partenaires.
Vous savez, non, nous sommes membres des Nations Unies. C'est nous qui avons besoin de sauver la population congolaise. Donc, notre gouvernement a l'intérêt de sauvegarder ou soit de sauver la population congolaise au lieu d'attendre chez les Nations Unies.
Voilà. Donc, si je comprends bien par rapport à cette journée, vous vous jetez beaucoup plus les regards pour appuyer, en fait, cet appui des partenaires, mais en insistant que l'État congolais ou encore le gouvernement puisse aussi prendre des choses en main en tant que un pays souverain pour pouvoir aussi aider tant soit peu à pouvoir donner l'occasion aux vulnérables ou encore aux marginalisés d'avoir la maîtrise de leur avenir. Merci beaucoup, Justin. Alors, Maurice, vous êtes à Kinshasa. Bonjour, Maurice. Maurice, vous êtes avec nous ?
Oui, bonjour, Jean-Mimou.
Maurice, vous avez la parole. Vous avez suivi Justin, qui, en fait, a comparé le travail qui est fait par les partenaires, de partenaires traditionnels de l'État congolais, c'est-à-dire les Nations Unies et tant d'autres. Bon, alors, aujourd'hui, c'est vrai, pour lui, il ne sent pas, disons, en fait, le travail qui est fait par le gouvernement congolais.
Tout à fait. Je voudrais commencer par rendre hommage aux humanitaires, notamment aux casques bleus qui sont tombés, qui ont perdu leur vie dans les cadres de leur travail, de chercher à sauver les vies de nos compatriotes qui sont tombés dans des zones de conflit où règne l'ingouvernance, où règne vraiment la somalisation, là où il n'y a pas d'autorité de l'État, mais ces humanitaires ont osé et ils ont perdu leur vie. C'est vraiment l'occasion pour moi de les rendre hommage à travers cette émission et paix à leurs âmes. Je voudrais également rendre hommage aux humanitaires qui œuvrent dans les agences du système des Nations Unies, notamment le PNUD, l'UNICEF et consorts. Pour rejoindre le premier auditeur, il a bien raison lorsqu'il dit que l'aide apportée par le gouvernement est très insignifiante. Vous savez, Gérald Ngembo, si vous allez voir dans d'autres pays, aujourd'hui ces pays-là, même qui étaient derrière nous, de très loin, prenez par exemple l'Angola, prenez même des Éthiopies, certains pays que vous connaissez ici en Afrique, vous n'êtes pas même cité d'autres pays. Là-bas, les gouvernements travaillent dans l'objectif de se dépasser, de ces aides, parce que ça nous assujettit. Lorsqu'aujourd'hui on dit qu'on parle de la souveraineté d'une nation, on brandit la souveraineté à chaque fois quand on veut, par exemple, remettre un système ou bien une décision à l'autre, alors on brandit la souveraineté. Or, la souveraineté commence d'abord par la prise en charge de certaines contingences qui viennent qui surgissent dans un pays. Notamment, par exemple, s'il faut prendre un exemple le plus récent, c'est le cas de l'Ebola. L'Ebola qui a été déclaré en Équateur. Qu'est-ce que vous avez constaté? On évalue le plan des ripostes et on ressort des chiffres de 4 millions et demi de dollars américains. Et on dit le gouvernement disponibiliserait de près d'un million de dollars américains. Mmh. Et il demanderait aux partenaires d'apporter une aide estimée à 3 500 000 dollars. Vous voyez, déjà, la poste part du gouvernement. Or, dans d'autres pays, qu'est-ce qui se passe? C'est le contraire. Ça serait le contraire. C'est-à-dire, le gouvernement pouvait arriver avec 3 millions ou 3 millions 500 et demander aux partenaires 1 million 500 000 dollars. Alors, c'est là la grande difficulté. On dit que ces pays travaillent, ces gouvernements travaillent dans le sens de se dépasser pour que dans 10, 15 ans ou 20 ans, on puisse abandonner, qu'on ne puisse plus demander, solliciter. D'ailleurs, au niveau de la communauté internationale, qu'on ne puisse pas voir la présence de toutes les agences ici, dans le pays, qu'on ne puisse pas voir la présence des quatre bleus venir en rescousse ici, mais on travaille dans le sens de pérenniser cette situation. Mmh. C'est ça la grande problématique, en fait, sur laquelle nous devons d'abord nous penser.
Oui, mais Maurice, je crois que pour l'instant, nous sommes un pays post-conflit, et je crois que la présence de casquets bleus, la présence des humanitaires, vaut réellement son pesant d'or.
Tout à fait, vous savez, ce discours-là est vraiment révolu. Un discours, en fait, les pays post-conflit, vous allez compter le nombre d'années depuis que nous sommes un pays post-conflit. Donc, c'est pour dire que nous allons toujours rester un pays post-conflit parce que nous n'arrivons pas à gérer ce pays avec orthodoxie. Qu'est-ce qui s'est passé, par exemple, j'ai toujours pris l'exemple du Sénégal. Le Sénégal, à l'arrivée de Macky Sall, Macky Sall était confronté au problème des inondations. Alors, il a constaté que ce n'était pas tout le temps qu'ils devaient, par exemple, intervenir la communauté internationale, que non, communauté internationale, faire les babysitting, comme le ministre de la Défense sud-africaine a qualifié le régime ici, qu'au Congo, nous faisons les babysitting. Mais le Sénégalais Macky Sall a compris que non, nous devons d'abord, nous-mêmes, faire face à cette situation avant de faire intervenir la communauté internationale. Ils ont initié un projet pour dissoudre les Sénans. Lui a estimé que le Sénat ne représentait absolument rien en termes de légitimité du pouvoir. Parce que 70% des sénateurs étaient nommés par le président de la République. Et lui-même, en démocrate, il a dit que non. Alors, voyant le budget du Sénat, il s'est dit que non, il fallait quand même initier ce projet de loi. Et ça a été approuvé par sa majorité au Parlement. Et le Sénat a été dissous. Et ils ont profité de ce budget, ils l'ont affecté dans le... dans la réhabilitation. Mmh. Voyez comment on peut gérer un pays. Mais ici, comment on gère le pays?
Oui, Maurice, restez un peu dans la thématique du jour, parce que là, nous l'avons dit, c'est la journée des Nations Unies, c'est l'occasion pour nous d'évaluer le travail qui est fait par les partenaires, notamment les agences des Nations Unies, ici sur place. Les prédécesseurs ont salué de demain le travail qui est fait, abattu par les partenaires. Mais de l'autre côté, comme vous l'avez dit aussi, l'apport du gouvernement congolais est insignifiant, ce n'est pas très significatif. Alors, mais comment faire aujourd'hui pour que les deux, celui qui vient en appui et celui qui doit travailler parce que c'est son pays, le travail soit fait vraiment en synergie et que les résultats soient escomptés, pour qu'on arrive vraiment à atteindre l'objectif tel que souhaité par le secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-moon, qui parle de l'engagement de tous afin d'amener le vulnérable et les marginalisés à avoir la maîtrise de leur avenir. Alors qu'est-ce qu'on attend par marginalisé et vulnérable?
Bon, marginalisé, vous pensez, vous savez déjà les situations qui se présentent au pays. Vous allez voir, par exemple, si vous allez à l'est du pays, les femmes qui sont, par exemple, violées, injustement, par la police de ce pays, par l'armée de ce pays, et par les groupes armés qui sont entretenus par le régime ici, face à les abeilles, ce sont des vulnérables. Ce sont des personnes qui sont assistées par les différents organismes et organisations internationaux. Donc, c'est ça d'abord, ce qu'on parle lorsqu'on parle en termes de vulnérables, ce sont des nécessités. Les gens qui ont besoin de l'aide, comme cette aide-là ne peut pas être apportée par le régime ici, par le pouvoir ici, par la gouvernance actuelle, alors ces gens-là attendent de la communauté internationale. Or, si un pays a toujours la main tendue, vous voyez que la main qui donne est toujours au-dessus des seuls qui reçoivent. C'est là donc les problèmes lorsqu'on parle d'un problème terrible de gouvernance dans ces pays.
Merci,
on gouverne un pays et on nous amène peut-être des pratiques anachroniques archaïque.
Merci beaucoup,
ça,
Maurice.
C'était dans le temps des repétos. C'est ça, en fait, qui fait qu'aujourd'hui, nous sommes assujettis à cette aide. Donc, sans cette aide-là internationale, sans cet apport international, je vous dis que ce pays ressemblerait à la Chine.
Maurice, merci beaucoup d'avoir appelé de Kinshasa. On va prendre Ismaël qui est à Lubumbashi. Bonjour, Ismaël.
Bonjour, Gilles Lungembo et à tous les auditeurs de la radio Capi.
Oui, comme Justin et Maurice, en tout cas, qui est les deux, pratiquement, ils ont abondé dans le même sens, peut-être avec des mots un peu différents. Aujourd'hui, c'est vrai, l'aide apportée par les humanitaires, l'aide apportée par les partenaires, les partenaires les plus importants, donc les Nations Unies, l'ONU, donc, et aujourd'hui, on ne sent pas la participation significative du gouvernement congolais quant aux actions humanitaires à vous avez suivi Maurice qui a évoqué les cas de contingence, qu'il faut vraiment mettre en place des stratégies de contingence pour arriver à répondre, que ça constitue un répondant par rapport aux besoins humanitaires. Alors, comment vous réagissez, Ismaël?
Merci beaucoup. Je commence d'abord par le monde de remerciement aux États-Unis, parce qu'il y a aussi un grand effort pour aider une humanité dont parfois ils ont un intérêt ou ils n'ont pas un intérêt. Dans le sens que si on peut mieux s'adapter ou voir réellement tout ce dont ils sont en train de faire comme si c'était nécessaire, on peut d'abord se référer aux États ou à l'état de la RDC, de ce qui était fait et ce qu'on est en train de faire actuellement. À cette référence pourrait encore nous donner une réponse correcte à ce dont on a fait. Si nous rentrons par exemple en 1960 et aujourd'hui que nous avons passé par exemple par la crise, dont l'état de la RDC devait même fonctionner sans un gouvernement. C'est ça l'une des difficultés. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut encore penser, qu'est-ce qu'on peut voir? Disons, en 1999, c'était difficile de quitter une région vers une autre. On devait passer par plus de barrières. Mais qu'est-ce qu'on a fait? Par les concours de l'État et les concours des Nations Unies, on a pu d'abord abattre les sortes de barrières. Aujourd'hui, nous vivons en sécurité. C'est l'une des réponses. Une fois où j'ai emprunté la direction de l'Odia, un papa m'a dit, vous avez de la chance aujourd'hui, comment vous circulez? Sinon, c'était difficile de passer ces gens des forêts. C'est ça d'abord le remerciement que j'ai fait à l'Odia et au gouvernement de la République, au président de la République et aux Nations Unies. Mais par rapport à ça, parce que nous avons beaucoup de difficultés, donc on peut encore avoir une aide humanitaire. Pas seulement dans les domaines sécuritaires, soit dans les domaines de la guerre et ainsi de suite. Ça, je vois qu'il y a plus aussi de concours. Mais pour que cette aide puisse être palpable, qu'est-ce qu'on peut faire? On travaille toujours dans les concours, que ce soit la société humaine, congolaise plutôt, et que ce soit la société, que ce soit la Nations Unies qui vient nous secourir. En premier lieu, c'est nous qui devons d'abord manifester cette intérêt, cette volonté, envie que nous puissions avoir une solution. Mm-hmm. Mais à part cela, nous avons encore un problème et une complication très sévère, c'est que dans les domaines commerciaux et dans les domaines agricoles. Qu'est-ce qu'on peut faire? Auparavant, nous avions, on avait des ONG qui travaillaient en faveur de l'humanité. Maintenant, aujourd'hui, pour relancer soit l'économie, soit la vie de la population congolaise, qu'est-ce qu'on devait faire? Ceux qui viendront pour nous aider devaient d'abord se référer à des différentes ONG qui les ont précédés. Par exemple, en 1992, on avait par exemple l'ONGD Batoudi. Moi-même, je suis un villageois, je travaille avec cette ONGD avec mon père. On devait avoir l'engrais chimique et qui devait nous aider à avoir pas autant de tonnes. Mais actuellement, on voit même, j'espère que si on veut avoir de l'engrais chimique aujourd'hui, à des fois ceux qui viennent de la Zambie. Mais ceux qui sont au centre et aux périphéries, c'est très compliqué, très difficile. Les infrastructures routières, par exemple, nous n'avons pas de routes. Comment on peut encore relancer l'économie et la production? On peut produire fois autant, mais juste quand on n'a pas ce genre de choses, on ne peut rien faire. La multiplication aussi des taxes qui sont en RDC empêche aussi ceux qui peuvent venir aider l'humanité. Si on pense dans ce genre de choses, on peut encore avoir une réponse correcte et on peut encore avoir un progrès. Mmh. Est-ce que je passe par exemple?
Oui, rapidement, Dieudonné, rapidement.
Au développement. L'agriculture aujourd'hui, c'est une ressource dont aujourd'hui, si tu ne manges pas, tu ne peux rien faire. Si on fait d'abord passer qu'on implante par exemple l'usine pour créer la production des engrais chimiques chez nous, on peut encore avoir plus à répondre.
Oui, Ismaël. Si on fait pas, oui, Ismaël. Voilà, Ismaël, je crois qu'on a compris, vous avez soutenu quand même les travaux, en fait, des activités menées par l'EQIF, c'est le projet à impact rapide au niveau de Nations Unies, et également ce qui a été fait en synergie avec le gouvernement congolais. C'est vrai, mais vous pensez qu'il reste encore beaucoup de défis à relever, hein, notamment dans les secteurs de l'agriculture et du commerce, pour pouvoir booster un peu la réponse, hein, au fait, à réserver aux besoins humanitaire. Merci beaucoup Ismaël d'avoir appelé. On va prendre Bemata qui est à Dungu. Bemata, bonjour.
Bonjour JR, bonjour à tous les auditeurs de la radio Kati.
Vous avez la parole Bemata.
Ok, merci de m'avoir accordé cette opportunité de pouvoir partager ce sujet avec vous. Et j'aimerais souligner ceci, en ce qui concerne l'aide humanitaire que la MONUSCO a fait de faire dans notre pays, c'est vraiment visible. Je tiens d'abord à condamner l'attaque que la population de Beni a pu manifester contre la MONUSCO. Et je souligne aussi l'état qui s'est passé à Beni, quand le groupe rebelle de M23 avait attaqué Goma, et comment la MONUSCO avait pu protéger les membres du gouvernement, quoi. Les membres du gouvernement. Et puis que je prends aussi les aides humanitaires que la MONUSCO a pu faire dans notre trajet ici à Dungu. Nous prenons par exemple Durba, Faradi et puis Dungu. Vraiment, la MONUSCO est à fait d'aider la population à travers les aides humanitaires. Et je ne sais pas si c'est le point, nous, la population, nous sommes à fait de condamner la MONUSCO. Et je pense que la MONUSCO sera aussi possible à ce que la MONUSCO même puisse continuer davantage à travers ses aides humanitaires à aider la population dans la République démocratique.
Voilà, merci beaucoup. Allez-y, vous voulez ajouter quoi, des matins?
Oui, je voudrais dire ceci. À ce qui concerne le contingent, la MONUSCO doit renforcer ses contingents dans des milieux qui sont dans des zones rouges. Et la MONUSCO doit renforcer ça. C'est contingent pour pouvoir protéger bien la population parce que partout nous sommes dans des zones rouges, l'effectif des militaires de MONUSCO sont vraiment insuffisants. Ils sont capables d'assurer la sécurité sur toutes les zones.
Merci beaucoup, Bemata. Voilà, vous avez salué les deux mains, les actions menées par la MONUSCO jusque-là, parce que vous avez utilisé les termes invisibles, hein, la visibilité. Donc, vous, personnellement, vous observez toutes ces actions, notamment réalisées par le projet Impact Rapide et tant d'autres sections de la MONUSCO. Et les travails qui est fait, vous avez même cité quelques exemples, la protection des membres du gouvernement lorsqu'il y a eu la crise à Goma et tout, et machin, dans certaines parties de l'est du pays. Voilà, donc vous avez soutenu. Et je crois, pour vous rejoindre d'ailleurs, le gouverneur de la province du Nord Kivu l'a même dit par rapport à la situation de Beni, s'adressant donc à la jeunesse de Beni, il leur a dit en tout cas clairement qu'ils se sont trompés des cibles parce que les partenaires sont en train d'abattre un travail des titans. Merci beaucoup, Bemata. Dieudonné, vous êtes à Walikale. Bonjour.
Oui, bonjour, monsieur le journaliste. Je vous aime trop, ça fait longtemps.
Voilà, nous vous aimons également. Alors, quel est votre point de vue par rapport à la thématique du jour?
Merci beaucoup de m'avoir accordé la parole. Et je salue encore les auditeurs des territoires de Walikale ainsi que de tous les Congos partout où ils sont. Voilà, pour moi, j'aimerais dire ceci. Et je salue d'abord aussi ce que les Nations Unies sont en train de faire dans notre pays, puisque s'il y a quelqu'un qui vient vous aider, donc vous allez considérer seulement ça, c'est une aide, oui, c'est une aide. Bon, mais j'ai créé une chose, pour quand il y a défaillance, quand il n'y a plus la force dans notre armée, là je vais parler sur le plan militaire, et la MONUSCO va nous dire, voilà, nous sommes venus seulement vous aider. Bon, si les parts d'essai manquent la force, ce n'est pas à nous. Mais nous, nous pensons que...
Oui, mais Dieu donné, je crois que vous suivez l'actualité. Vous savez d'où nous venons et où nous allons. C'est vrai que par rapport aux différents mandats, donc la MONUSCO agit par rapport aux différents mandats, je crois que des personnes habilitées ont dû donner l'explication là-dessus par plusieurs fois. Aujourd'hui, c'est vrai, la MONUSCO travaille sous un autre mandat, aussi en rapport avec la concadre d'Addis Abeba, ou aux côtés du gouvernement, qui doivent aussi faire beaucoup le travail pour arriver, en tout cas, à pacifier les pays. Je crois que nous sommes plus à l'époque où il y avait des langages l'image du genre. Non, nous sommes venus vous aider, mais nous ne pouvons pas faire ceci. Voilà, par rapport à l'actualité, il faut vraiment suivre l'actualité et vous comprendrez les différents mandats qui sont succédés par rapport à la mission qui a été donnée à la MONUSCO. Mais voilà, donc c'est juste pour que vous ayez cette précision, hein, pour ne pas parler comme des commets de mortels.
Merci beaucoup. Je voudrais dire ceci. Pour nous, ce qui nous manque d'abord, c'est le patriotisme. Puisque, vous voyez, quelqu'un qui est venu vous aider, vous devez d'abord se concentrer. Puisque celui-là est venu seulement vous aider. Bon, dans notre pays ici, je parle sur le plan militaire, vraiment, il n'y a pas de patriotes. Il n'y a pas trop de patriotes. Et quand il y a un ou deux patriotes, bon, vous allez voir, dans deux jours, celui-là n'est plus en vie. Mais le problème, c'est logique, puisque dans notre territoire de Walikale ici, la MONUSCO faisait des efforts, surtout pour l'amélioration des routes de Walikale à Bukavu, de Walikale à Massidjigoma, mais pendant ce temps, ces travaux n'étaient plus. Donc pour moi, je voulais dire que la MONUSCO puisse encore revenir d'abord comme il faisait. Et il facilitait aussi nos élèves finalistes, quand ils voulaient faire les examens de temps, à les transporter à bord de leur véhicule. C'était bien vraiment alloué, mais pendant ce temps, bon, la MONUSCO ne fait pas encore ce travail-là. C'est que moi, je voulais dire à la MONUSCO qu'il reprenne d'abord du bien ce qu'il a laissé et qu'il dépose les mâles, ce que nous constatons comme les mâles. Mais la MONUSCO, quand même, ça va bien, même s'il y a encore d'autres choses à vérifier.
Voilà, quand on parle des Nations Unies, des données, il n'y a pas que la MONUSCO, il y a d'autres agences aussi qui travaillent dans le secteur humanitaire, on peut en citer, et surtout dans plusieurs secteurs, parce que ce sont des partenaires traditionnels. Depuis la nuit des temps, ils sont aux côtés du gouvernement congolais. On peut citer quelques-unes. Il y a l'UNICEF, il y a l'UNESCO, il y a OCHA, il y a en fait le PNUD qui est tout le temps là. Surtout on l'a vu le PNUD par rapport aux élections qui ont été organisées en 2006 et 2011. En tout cas, d'une manière un peu visible. Merci beaucoup des données d'avoir participé à ces débats et surtout d'avoir porté cette contribution. 081 890 6315 pour votre intervention en direct. Vous pouvez également composer le 081-890-4969 et aussi poster vos commentaires sur notre page Facebook.
Parole aux auditeurs.
Merci encore de votre fidélité à Radio Capi. Si vous nous rejoignez, bienvenue dans cette émission Parole aux auditeurs, votre magazine d'échange citoyen. Jean-Vincent, vous êtes à Lomela, dans les Sankourous. Bonjour.
Bonjour Gilles, bonjour à l'invité, bonjour à tous les auditeurs de la Radio de la Paix.
Vous avez la parole Jean-Bertrand.
Oui, merci Gilles de m'avoir accordé la parole pour la participation à cette émission. Moi Gilles, je pense que je voudrais seulement demander à la MONUSCO de ne pas considérer ce qui est arrivé à Béni comme une reconnaissance de la population de l'RDC. Nous sommes témoins et conscients du travail que la MONUSCO a fait. Surtout dans le domaine de la sécurité. Moi, je pense que ces incidents ne sont pas à mettre dans le sens.
Allô, Jean-Vincent? Voilà, de petit à petit, vous commencez à disparaître, en tout cas, sur votre ligne là. Vous sentez un très coupé. Vous êtes avec nous? Voilà, désolé, hein, on ne peut pas continuer avec vous. Il a plu, je crois qu'on doit avoir peut-être un petit problème avec nos lignes téléphoniques. On va prendre plutôt Dr. Richard qui est à Kinshasa. Dr. Richard, bonjour.
Bonjour, Gilles. Bonjour à tout le monde, et surtout félicitations à tous ceux qui ont parlé. Moi, j'ai deux préoccupations avant d'aborder le thème d'aujourd'hui. Mm-hmm. Qu'est-ce qu'on entend par vulnérable en RDC Congo? Et puis, qu'est-ce qu'on appelle situation post-conflit? Et conflit. Je crois que le vulnérable, c'est aussi le fonctionnaire de l'État qui a une rémunération qui n'a pas de rubrique en regard du chiffre qui est là. Il n'y a rien. Tout a été élagué, il n'y a pas d'allocation familiale, etc., etc. Un chiffre qui est là, on dit prenez. Et si nous regardons bien, parmi ceux qui étaient recrutés dans les rébellions que le pays a connues, là on ne le dit pas, il y a beaucoup de fonctionnaires de l'État. Ce sont des vulnérables. Est-ce que nos humanitaires ou les Nations Unies s'occupent du fonctionnaire congolais? S'ils le font exister, de quelle manière? Et puis on parle de conflits. Mais je crois que ce sont des conflits importés par les Congolais. Mobutu leur avait donné le conseil, je suis mourant, le pouvoir en m'attaquant,
organisez-vous démocratiquement. Ils n'ont pas voulu. Ils sont allés chercher des pays pauvres pour chasser Mobutu. Et ces pays ont payé les richesses du Congo. C'est ça la réticence des rébellions à l'Est. Mais on n'ose pas parler de ça. Les gens enterrent la tête dans le sable comme l'autruche. Sans trouver de solution. Il faut qu'on dénonce aussi ça.
Voilà.
Allô?
Oui, allez, parce que vous avez parlé, vous avez posé d'abord.
Félicitations à tout ce que les humanitaires font, mais les Congolais doivent se regarder deux fois, nous devons nous regarder deux fois pour dire pourquoi nous importons des conflits. Pour que les autres viennent mourir chez nous ici, parce que les humanitaires sont morts aussi ici.
Oui, mais docteur Richard, vous êtes sans ignorer que dans un passé un peu lointain ou encore dans un passé aussi récent, il était difficile de parler unification du pays parce que quitter un lieu pour aller à un autre lieu, c'était pas facile. Et aujourd'hui, vous êtes sans ignorer également qu'il y a, il y a un problème très sérieux, en tout cas de déplacement. Il y a certains humanitaires qui travaillent dans ce sens. On peut citer l'aviation sans frontières. Il y a pas mal pour ne citer que ces cas-là qui en fait, aujourd'hui, donne l'occasion à la population, en tout cas, d'aller d'un coin à l'autre.
C'est ça. Je suis d'accord avec vous, mais il faut aussi être d'accord avec moi. Ce sont des souffrances voulues par les Congolais eux-mêmes. Si nous étions organisés autour de l'idéal de développement du Congo, même si Mobutu était partant, on n'allait pas détruire le pays comme ça pour commencer à crier. C'est pour ça qu'on a voulu ça.
Voilà, merci
c'est
beaucoup, docteur Richard. Nous parlons de cette journée des Nations Unies et par, disons, en marge de cette journée. Donc, nous profitons d'ailleurs pour faire l'évaluation des travaux abattus, le travail qui est en fait réalisé par les agences des Nations Unies en RDC, en tout cas qui se sont depuis très longtemps sur le sol de l'RDC. Et aussi, nous avons suivi les auditeurs qui vous ont précédé, Richard, qui ont salué les deux mains, les travaux qui est abattu. Qui reste est très très visible. Jérôme, vous êtes à Kananga, au Café Occidental. Bonjour.
Bonjour Radio Parti, bonjour Sirani Auditeur.
Vous avez la parole, Jérôme.
Oui, c'est Jérôme Michaniling et Touley. J'appelle à partir de Kananga. Je rends d'abord hommage aux Nations Unies pour leur journée. En tout cas, j'ai fait ensemble avec eux. Et puis, je voudrais m'en dire ceci. Vous savez, là, à l'aide. Il y a les structures qui combattent souvent pour l'aide humanitaire, pour aider les femmes qui sont violées, les enfants et consorts. Est-ce que moi, j'interpelle les Nations Unies, au lieu de faire eux-mêmes, ils peuvent venir en aide à ces structures-là. Donc, aider ces structures-là qui sont bien sur place pour que ces structures-là aillent de l'avant. Au lieu qu'eux-mêmes le fassent, les structures de l'autre côté n'ont pas des moyens de fonctionnement. Alors, ce n'est pas du tout bien, je ne me réjouis pas du tout de ça. Et puis, la marginalisation, ce n'est pas seulement à l'aide où les gens sont marginalisés, les Nations Unies doivent venir seulement en aide aux gens qui sont à l'aide. Non, même ici au Café Occidental, les gens sont marginalisés. Ils doivent penser quand même sur l'ensemble du pays, parce que vous savez, ici à Kananga, les fonctionnaires d'État sont là, ils se postent devant la banque, ils sont marginalisés d'une manière ou d'une autre. Alors que les Nations Unies ne pensent pas tellement à l'Est, qui pensent aussi à nous, qui sommes au centre du pays, partout, sur le pays tout entier, qui pensent aux gens qui sont marginalisés dans l'ensemble du pays. Voilà un peu ma contribution.
Voilà, donc Jérôme, si je comprends bien, vous voulez dire qu'effectivement, ceux qui sont pauvres sont également considérés aujourd'hui des marginalisés, il faut qu'on pense à eux.
Oui, ils sont marginalisés. Alors, les Nations Unies doivent venir en aide, justement, sur tous les marginalisés du pays. Pas seulement en aide. Ils doivent aussi aider tout le monde qui est marginalisé dans la table du pays pour leur venir en aide.
Voilà. Alors, est-ce que vous partagez l'avis de Clovis qui dit que c'est effectivement les humanitaires posent en tout cas des actes qui sont tout de même visibles, mais le travail devait être soutenu par l'apport du gouvernement congolais.
Oui, c'est ce que j'ai commencé par dire. Alors, ils doivent aussi soutenir les structures-là qui sont déjà mises en place pour l'aide humanitaire. Et puis, le gouvernement s'implique aussi, ensemble avec les Nations Unies, pour aider les structures qui sont déjà en place là, qui s'engagent déjà pour ce travail-là.
Merci beaucoup d'avoir appelé. Nous allons prendre Clément, qui est à Kibombo. Alors, Clément, vous êtes avec nous. Bonjour, Clément.
Bonjour, messieurs les journalistes, bonjour à tous les studios de la radio Kapi. J'aimerais juste intervenir concernant la journée d'aujourd'hui qu'on est en train de traverser.
De célébrer, oui. Clément.
De célébrer,
voilà.
Je voulais dire, concernant les mandats de la MONUSCO en RDC, chaque fois nous voyons le renouvellement des mandats, on dit qu'on va renouveler les mandats. Mais depuis qu'ils sont venus au Congo, à l'Est, on ne trouve pas de tranquillité. Après un an, après deux semaines, il y a toujours des sangs des Congolais qui sont en train d'écouler. Qu'est-ce qui est à la base de ça? Je vais simplement poser cette question à l'invité de la radio.
Alors vous, en tant qu'observateur climat, qu'est-ce que vous avez déjà remarqué du travail? Ne fût-ce qu'un quelque chose qui est déjà fait, une action menée par, si pas seulement la MONUSCO, parce que la journée des Nations Unies ne concerne pas seulement la MONUSCO, mais il y a également les agences des Nations Unies qui opèrent dans certains pays. Voilà, donc vous, qu'est-ce que vous avez déjà remarqué? N'avez-vous pas remarqué une action, un projet à impact rapide mené par soit la MONUSCO ou soit les agences des Nations Unies?
J'ai déjà remarqué...
Parce que vous êtes à Kibombo, même pas un pont, réhabilité par les agences des Nations Unies, en cas de crise humanitaire, vous n'avez pas vu une contingence, un plan de contingence organisé par les agences des Nations Unies?
Au niveau de Kibombo, je ne pense pas qu'ils ont déjà réhabilité, même un pont, une école, on ne pense pas. Mais ailleurs, nous suivons par radio... J'ai loué leur initiative de donner un drone au niveau de Goma, mais le drone qui était à sa main, ça m'a inquiété vraiment, monsieur le journaliste. La paix à Goma, ils ont réussi à chasser les rebelles, mais de temps à d'autre, les guerres ne cessent pas.
Voilà, merci beaucoup, Clément. Merci beaucoup, Clément. 081-890-6315 pour votre intervention en direct.
Au pays des léopards, le ballon est roi et le football a désormais son émission. Au Café Foot, chaque dimanche de 18 à 19h. Autour d'un invité, l'équipe de sport vous invite à réagir en direct sur l'actualité après les matchs du jour. Coupe, championnat, Ligue des champions, Radio Capi vous donne la parole. Au Café Foot, c'est en direct et c'est le dimanche de 18 à 19h. Appelez le 081-890-6489.
Parole aux auditeurs, pour participer, 081-890-6315 ou par internet pa@radiocapi.net. Parole aux auditeurs, J.R. Nguyen.
Nous allons accueillir Willy qui est à Kamina. Voilà, Willy, vous nous avez rejoint. Bonne arrivée sur les ondes de Radio Capi. Bonjour.
Ok, bonjour, CG. Bonjour, Radio Capi.
Voilà, vous avez la parole, votre point de vue.
Ouais. Alors, je voudrais intervenir dans cette émission aujourd'hui pour vous dire que moi, personnellement, ici au niveau de Kamina, je ne sens pas vraiment l'importance. Alors. Ce que la MONUSCO fait, ou alors les Nations Unies. C'est une raison qu'ici, au Katanga, nous ne voyons pas cette importance ou quoi. Vous voyez, par exemple, je peux prendre un exemple de Wakatakatanga. Le Wakatakatanga, ici, on ne voit pas l'impact de la MONUSCO. Ce que la MONUSCO fait pour mettre, ou alors bouter ces gens hors de leur rayon d'action. Et puis, du côté de l'Est, là, on nous avait parlé de drogue, mais. C'est ces avions sans pilote, tout ça. Mais au moment où ces avions existent, qui pouvaient quand même apporter certaines informations fiables vraiment à la MONUSCO, les soi-disant bandits du terrain continuent toujours
à opérer.
Du côté des humanitaires, nous voyons que ici, par exemple, ici au Katanga, les humanitaires sont vraiment ne sont pas opérationnels. Je dis cela puisqu'ils ne viennent pas pour se déplacer, surtout du triangle de la mort que vous connaissez.
Mmh.
En bref, je pourrais dire que la MONUSCO doit élargir les partenaires humanitaires au niveau du Katanga, car l'aide n'est pas seulement à l'Est. L'aide peut être aussi au niveau de l'intérieur du fin fond de la République. C'est comme si à Kamina, il y avait la présence du PAM. Le temps qui a fermé pour se déplacer vers l'est du Congo. vous voyez que nous sommes vraiment marginalisés, comme le disait notre ami de Kananga là-bas, qui a parlé de la marginalisation des démunis. Ce n'est pas seulement à l'Est, mais partout dans le pays. Donc voilà, en bref, ma contribution pour l'émission de l'émission.
Voilà, merci beaucoup Willy. On va prendre, on va réunir ici à Kinshasa. Il y a le professeur Robert qui nous a rejoint. Prof Robert, bonjour. Prof Robert, vous êtes avec nous?
Oui, je suis avec vous.
Alors, comment réagissez-vous par rapport à vos prédécesseurs? Il y a eu pas mal d'interventions des uns des autres. Est-ce que vous avez un avis aussi contraire ou peut-être vous appuyez ce que certains de vos prédécesseurs ont dit sur l'appui important au fait de humanitaires, mais qui devait être soutenu à fond par le gouvernement congolais, en tout cas l'apport du gouvernement congolais?
Bon, je vois que de toute façon, les actions de MONUSCO et des agences humanitaires sont très appréciables, mais je trouve seulement une sorte de discrimination. On met plus l'accent sur l'Est. Moi, je suis de l'Ouest ici. J'avais même occupé.
Voilà, on a des petits soucis, prof. Oui, s'il vous plaît. Si cela ne va pas vous déranger, professeur.
Pour obtenir un financement. Mais ça n'a pas obtenu, comment je peux appeler ça, satisfaction. Alors, je pense qu'il est utile que les humanitaires appuient les institutions locales et essaient de faire, comment je peux appeler ça, tâche d'huile sur l'ensemble du pays, ça serait plus intéressant. Mais on met plus l'accent sur l'Est. Et puis, cette histoire des mouvements qu'on appelle les rebelles, les consorts, même les Afdènes, les Afdènes, ce sont des gens qui sont, comment je peux appeler ça, étrangers pour nous. Il y a eu des mercenaires de Bourg-Lunard et des consorts qui sont arrivés ici et on ne doit plus les déloger. C'est toujours dans ce point-là. Et quand il y a eu la sécession au Katanga, mon Luc est arrivé. Et ils ont utilisé la force et ils ont délogé et trouvé qu'il a fui en Espagne et qu'il a fui en France. Donc je pense que ça risque de faire de l'usure cette histoire des groupes armés à l'Est. Le nombre d'années déjà que MONUSCO travaille avec les Congolais à ce niveau-là.
Voilà.
On constate déjà.
Voilà, vraiment, on fait pour comprendre.
Pour mettre les déloger. Et je crois qu'il est utile qu'en plus, chronométrer l'histoire et prendre le temps, parce que les juges, ça risque de nuire.
Tout à fait. Merci beaucoup, prof. C'est vrai, on a eu du mal à saisir, mais on a quand même compris votre intervention. Et voilà, donc on va vraiment accorder la parole à Ribaud, qui est à Kikwit. Ribaud, bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste.
Vous avez la parole, Ribaud. Voilà, Ribaud, vous êtes avec nous.
Bonjour, salut, monsieur le journaliste. Bonjour.
Oui, vous avez la parole. Votre point de vue.
Vraiment, nous sommes très contents par rapport à la présence des Nations Unies dans le secteur de leurs interventions sécuritaires, sécurité alimentaire et consorts. Très contents. Notre souhait, est-ce que nos autorités, ou soit notre pouvoir, travaillent en symbiose avec les Nations Unies? C'est ça. Parce que quelqu'un qui vous amène un pain, vous l'achetez et il veut vous apprendre à fabriquer vous-même. Quel est votre apport par rapport à celui qui veut vous apprendre à fabriquer un pain ou soit à pêcher? Donc, notre pouvoir doit aussi se mêler, on doit aussi sentir. Pourquoi? Parce que de temps à autre, parfois on se dit, ah, à l'Est, par rapport dans le cadre sécuritaire, on sent comme si la MONUSCO est aussi ensemble avec les rebelles, tout ça. Parfois, il est aussi cité par rapport à la population en plus. Alors, est-ce que nos autorités sont aussi impliquées dans l'ensemble de l'aide d'action sur le terrain? Par exemple, dans le cadre alimentaire, la façon dont on vit, on dit non, les bureaux de la MONUSCO seraient de loger des bandoundous, précisément à Kikoute. Et hier, ça ne fait pas longtemps, on voit FAO reprendre ses activités dans le cadre de la sécurité alimentaire. On doit aussi sentir la présence, on doit aussi sentir l'apport de nos autorités. Pourquoi? Parce que quand aujourd'hui FAO va partir, et nous qui avons reçu ce projet, qu'est-ce que nous avons fait? Et aussi, nous avons insisté par rapport à la faire quoi, l'évaluation. Les Nations Unies doivent nécessairement faire l'évaluation de tout ce qui fait comme travail. Quand on fait l'évaluation, donc si on va se dire, ici nous avons échoué, ici nous avons un peu réussi, qu'est-ce que nous pouvons faire pour que nous puissions aller de l'avant? Ou soit, les gens qui sont en train de prendre en charge, et demain si nous partons, parce que tout ce qu'ils font, c'est dans leur mandat. Après 5 ans, 10 ans, ils vont partir. Et quand ils vont laisser les gens, qu'est-ce qui va rester?
Voilà.
Donc vous créez... dans les cadres de sécurité alimentaire, FAO s'installe, explique par exemple. Et demain, quand tu vas partir, vous allez voir les champs vont partir comme ça. Pourquoi? Parce que les Nations Unies est parti. Celui qui gérait le projet est parti. Nous restons comme ça. Quel est l'apport de nos autorités? L'appui, nos autorités doivent appuyer ces actes.
Voilà, si je comprends bien, Ribot, vous voulez que l'État congolais puisse anticiper quand même les événements, parce que ce n'est pas un secret. Une ONG, que ce soit nationale ou internationale, qui s'est engagée dans une activité humanitaire, tôt ou tard, il finit toujours par cesser les activités dans cette partie du pays. Mais alors, comment assurer la pérennisation ou encore, au fait, prendre en charge la population qui a bénéficié pendant longtemps de cette activité et qui parfois est surpris d'apprendre simplement des engagements d'une manière un peu brusque. Alors si l'État congolais ne s'était pas préparé par rapport à ça, on sent réellement un vide parce que nous avons des cas à citer, mais ce n'est pas l'objet à l'ordre du jour. Merci beaucoup Ribot d'avoir appelé de Kikwit. Deo Gracias, vous êtes à Bounia. Bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste de la radio Kati.
Vous avez la parole, Deo Gracias.
Oui, je vous remercie. Je voulais d'abord vous remercier pour m'accorder ce temps à intervenir à la radio Kati. Je me rappelle si j'ai fait une étude rétrospective allant des années 2004 jusqu'à nos jours. Nous avons vécu une période qui est vraiment sans précédent, dans les cas de tuerie, dans les cas de massacres, les conflits interethniques, avec le concours des Nations Unies et le gouvernement congolais, ils ont quand même réussi à nous réconcilier un tout petit peu. Et aujourd'hui, nous nous saluons, on peut circuler d'une ville à l'autre, mais ce qui ne se faisait pas, l'année 2003-2004, c'était vraiment une période là où nous devions être reconnaissables.
Donc, si je comprends bien, pour éclairer un peu la lanterne, peut-être des auditeurs qui ne comprennent pas de quoi vous parlez, vous voulez évoquer les événements.
Je suis de l'Ituri.
Oui,
en Ituri, à 2003-2004, nous avons connu une période de conflit interethnique.
Oui, avec les EMA et
les gens ne savaient pas aller.
Tout à fait.
D'un village à l'autre. Aujourd'hui, nous le faisons quand même malgré ce que nous connaissons aujourd'hui. Nous devons être reconnaissants parce que si aujourd'hui, avec cette discrimination, le conflit interethnique nous a fait comme si c'est le monde venait d'être créé à peine, les gens se voyaient comme des petits animaux. Et ce que je voudrais aujourd'hui, mon souhait, c'est que la communauté internationale, le gouvernement congolais puisse collaborer sans se voiler de face pour parvenir à leur objectif de communier les plusieurs communautés de l'Ituri pour la bonne cohabitation. C'est comme ça que nous allons recouvrir notre relation qui existait avant l'indépendance. Alors, je vois qu'ils n'ont pas... Tout être humain connaît quand même des failles. Ils ont réussi d'abord, mais il reste encore beaucoup à faire pour éradiquer la rébellion au niveau de l'Ituri Parce qu'il y a tant de promesses qui arrivent qu'on va éradiquer, tantôt les appels résiduels des miliciens, mais qui nuisent quand même. Et il fallait qu'on puisse collaborer et les FARDC et les contingents des Nations Unies puissent élaborer, puissent éradiquer ce phénomène de conflit et qu'il y a des fois plein de tendances de conflits identitaires. Et cela nous fait beaucoup décourager parce que personne n'a voulu naître ce qu'il est aujourd'hui. Mmh. Pour de simples ressemblances morphologiques, on est des fois discriminé. Mais Dieu merci parce que ils sont témoins, la communauté internationale, je voulais dire, ils voient, même celui qui a besoin, qui voulait faire du mal à quelqu'un, il voit qu'il a un témoin gênant. C'est comme ça que nous devons quand même être reconnaissants. Il y a parmi eux ceux qui ont perdu leur vie.
Tout à fait.
Et qu'ils puissent d'abord, que nous puissions collaborer avec eux, reconnaître ce qu'ils sont en train de faire, les fois qu'ils sont en train de conjuguer pour nous faire ce que nous sommes. Le problème de projet en impact rapide, par exemple la route qui nous relie de Bounia au lac Albert, c'est une route là de 55 km, mais là on prenait 2 ou 3 jours, aujourd'hui on le fait à quelques heures. Et avec le gouvernement congolais, nous connaissons quand même qu'il y a quand même un changement. L'homme n'a jamais été satisfait à 100%. Voilà ce que j'ai voulu contribuer.
Merci, merci beaucoup.
Pour la journée d'aujourd'hui.
Merci beaucoup, Deo Gracias, d'avoir participé à ce débat. John, vous êtes à Dungu. Bonjour, John.
Bonjour, monsieur le journaliste. C'est moi, John, à partir de Dungu. Je voulais juste remercier cette journée ici. Particulièrement, je remercie la Nations Unies qui est tout près de nous. Et chaque fois que nous sommes avec nous-mêmes, s'il s'agit de malheurs, même s'il s'agit de n'importe quoi, ils sont avec nous. Ce que je voudrais faire dire aujourd'hui, je remercie beaucoup, monsieur le journaliste, nous sommes à Dungu, c'est une route Dungu jusqu'à Farage, c'est moins de 200 km. On le faisait plus d'une semaine, et maintenant on veut le faire à quelques heures. C'est une grande satisfaction de notre population de Dungu. Et je remercie toutefois la sécurité qui est en train d'établir sur notre territoire, même si elle est même si rouge, et cette fois nous voyons qu'il n'y a plus rien, même s'il y avait des LRA qui nous disent n'importe comment, en tout cas,
maintenant, de moins en moins, il y a de moins en moins de l'insécurité. Merci beaucoup, John, d'avoir appelé de Dungu. On va prendre le dernier auditeur, Ogi, qui est à Kolwezi. Ogi, vous êtes avec nous?
Oui, salut, monsieur.
Vous avez la parole, Ogi.
Oui, bon, je voulais juste marquer ma présence en disant ceci. Nous devons retenir une chose. En matière de relations entre États, il n'y a que l'intérêt qui prime. Vous savez bien, c'est une question que le service de l'ONU travaille avec la puce.
Voilà, Ogi, vous êtes avec nous? Voilà, on a des petits soucis avec la ligne de notre auditeur, Ogi, qui était à Kolwezi. Voilà, il est temps pour nous de prendre encore deux autres auditeurs hein, qui vraiment insistent pour participer à cette émission. On vous rappelle nos numéros de contact, le 081-890-63-15, pour votre intervention en direct, ou bien le 081-890-49-69.
Chaque vendredi de 19h15 à 20h, Radio Café vous propose la tribune de la presse. Analyse, explication et débat autour de l'actualité de la semaine avec les journalistes de la presse écrite et audiovisuelle. La tribune de la presse, vendredi de 19h15 à 20h, un résumé complet de l'actualité de la semaine. Une émission à réécouter sur internet, radiocafé.net.
Parole aux auditeurs pour participer 081 890 63 15 ou par internet pa@radiocapi.net. Parole aux auditeurs, J.R. Nguyen.
Voilà, nous poursuivons. Dans quelques instants, on va se séparer, mais permettez-nous quand même de vous rappeler notre sujet. C'est le 24 octobre de chaque année, le monde célèbre la journée des Nations Unies. Et cette année, le secrétaire général des Nations Unies plaide pour l'engagement de tous pour rendre les marginalisés et les vulnérables maîtres de leur avenir. En RDC, les agences des Nations Unies appuient l'État congolais depuis des décennies pour cet objectif. Alors, quel regard portez-vous sur ces actions humanitaires? Vous avez suivi les uns les autres nous avons commencé par Justin, et qui nous a rappelé que les problèmes des enfants vulnérables et des femmes sont à prendre à cœur. Mais la société doit aller au-delà de cela, c'est-à-dire soutenir même les démunis, les pauvres qui n'ont pas à manger. Mais tous ces travaux doivent être appuyés par les gouvernements congolais et qui, au fait, posent des actes généralement, selon Justin, qui ne sont pas visibles. Maurice est revenu tout en rendant hommage au casque bleu. Il a salué de demain également les activités menées par les PNUD, notamment l'UNICEF, l'UNESCO, ou tant d'autres agences des Nations Unies. Alors il insiste pour dire que voilà, il faudrait que l'État congolais vienne aussi pour revoir un peu l'aide qu'elle apporte dans ces sens-là, qu'elle soit aussi très significative par rapport aux besoins. Sinon, bon voilà, si nous voyons des petits pays qui nous entourent aujourd'hui, qui ont eu en tout cas à transformer ou à améliorer leur IDH, entendez par là l'indice de développement humanitaire, ça pourrait vraiment aussi améliorer l'image de notre pays à l'extérieur. Ismaël, tout en nous rappelant un peu l'historique des gens d'autres pays, il a salué aussi dès demain les actions menées par les humanitaires, précisément les agences des Nations Unies, qui en fait mènent des actions dans le sens de pouvoir aider ces personnes marginalisées et vulnérables. Mais Mata et Richard sont revenus également sur cela pour insister sur la sémantique qui est vulnérable et qui ne l'est pas. Pour eux, généralement, tout celui qui n'est pas à même de pouvoir au fait avoir accès aux soins primaires, aux soins de santé, à l'éducation, c'est celui-là qui est considéré comme marginalisé et vulnérable, et il faudrait une attention soutenue dans ce sens-là. Voilà. Donc, en gros, ce qui a été la thématique du jour. Merci à vous tous qui avez participé à ce débat. Nous disons également merci à Sylvain Matundu qui a assuré la mise en onde de ce programme réalisé par Julie Feza Bongunda, un programme qui vous a été coordonné et présenté par Gilles Nguembo. On se voit avec vous demain pour un autre débat.
Allô? 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 Il ne répond pas?
Voilà, le lundi, on fait le point sur le bilan de la lutte contre la poliomyélite en RDC. Nous aurons comme invité Dr. Audry, donc prenez déjà rendez-vous avec nous, envoyez-nous vos réactions sur notre page Facebook, et pourquoi pas, pa@radiocapi.net. D'ici là, portez-vous bien et bon suite de programme sur Okapi.